Donc si ça va pour tout le monde, nous allons passer à Manon avec son travail sur les cimetières naturels.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais essayer de partager mon écran. Vous le voyez?
Oui.
Super. Donc bonjour à tous, je m'appelle Manon Moncoq. Je suis doctorante en anthropologie du funéraire et de l'environnement à l'Université de Tours, rattachée au laboratoire CITER. Ma thèse, elle porte sur les funérailles écologiques. Donc la transition n'est pas un thème que j'ai déjà abordé, mais je trouvais qu'il faisait écho en fait à plusieurs points de mes recherches. Et surtout, je trouvais que c'était intéressant pour élargir en fait ma réflexion à travers donc cet exercice de communication. J'espère que je serai assez claire dans mes propos et je prendrai le temps sinon de développer tout ça à travers les questions. Donc ma communication d'aujourd'hui porte sur les cimetières naturels, la mort comme nouveau mode d'action. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, l'écologie est véritablement devenue une nouvelle entrée de penser la mort. D'une part, il y a des impératifs sociétaux qui sont initiés tant par les politiques publiques que les citoyens qui invitent alors à repenser bien notre façon de produire, de consommer et même plus récemment notre façon d'être mort. Par ailleurs, il y a des impératifs techniques qui, là, demandent à reconsidérer la gestion de nos corps morts, dont le nombre augmentera d'ailleurs de façon assez significative dans les prochaines décennies. On ne peut plus prendre en fait nos défunts comme on le faisait jusqu'alors parce que la mort et les morts aussi polluent. Il y a donc des innovations dans le champ des pratiques funéraires qui ont fait leur apparition, avancées comme plus écologiques et plus économiques que les funérailles dites traditionnelles. Des modes de sépulture ont également été repensés, c'est le cas notamment du premier cimetière naturel de France. Alors que les initiatives sociales, écologiques ou économiques liées à la transition sont généralement pensées dans la vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, la mort qui était jusqu'alors épargnée semble désormais se profiler comme nouveau secteur d'action avec le développement des funérailles naturelles. Nous pouvons ainsi nous demander dans quelle mesure ces nouvelles pratiques funéraires et plus particulièrement les sites d'enterrement naturel peuvent-elles devenir de véritables modes d'action entrepris par les acteurs de la société civile, mais aussi dans quelle mesure elles peuvent influer les politiques publiques liées à la transition. Donc pour tenter d'y répondre, je vais aujourd'hui vous présenter dans une première partie en quoi consistent les funérailles naturelles et les comparer rapidement aux funérailles dites traditionnelles, puis j'aborderai les raisons de l'intérêt porté par les citoyens au cimetière naturel. Enfin, je développerai les liens nécessaires entre les acteurs publics et les acteurs de la société civile au concept de transition funéraire. Les funérailles naturelles, l'impact environnemental des funérailles traditionnelles. Aussi surprenant que cela puisse paraître, depuis une cinquantaine d'années, les funérailles dites traditionnelles agissent de façon négative sur l'environnement. Très rapidement, du côté des fournitures et des services qui sont proposés. Les centres de conservation qui concernent en moyenne 35% des décès aujourd'hui consistent à injecter 6 à 10 litres de produits chimiques, voire très chimiques, dans le corps du défunt. Les fournitures funéraires proposées sont aussi très généralement en plastique, en métal ou en tissu synthétique, donc non biodégradables. Et les matériaux les plus utilisés dans les funérailles, qui sont le bois et le granit, sont issus d'exploitations étrangères mais aussi intensives. Les modes de sépulture ne sont pas neutres également. Du côté de l'inhumation, qui concerne aujourd'hui environ 65% des décès, eh bien, consomme une partie importante des territoires urbains, mais aussi pollue le sol de produits chimiques ou non biodégradables, et modifie durablement l'environnement à travers tous les monuments imposants présents dans les cimetières, que ce soit les caveaux, les semelles ou les pierres tombales. Concernant la crémation, que l'on pourrait considérer comme plus écologique, eh bien, elle a aussi ses défauts, entre guillemets. Elle fonctionne, en tout cas en France, à l'énergie fossile, le gaz, et émet dans l'atmosphère du monoxyde de carbone et des particules fines. Très rapidement, à titre d'exemple, pour vous donner une idée, il y a une analyse comparative qui a été réalisée en 2017 pour la Fondation des services funéraires de la ville de Paris. En termes d'émissions de CO2, une inhumation donc, avec le scénario caveau plus monument, donc le caveau c'est la construction qui est sous le sol, et le monument c'est ce qu'il y a au-dessus du sol, en surface, correspond en termes d'émissions de CO2 à 5,4 crémations. En revanche, lorsqu'une inhumation est faite en pleine terre, ça veut dire donc bien sûr avec le cercueil parce qu'il est obligatoire, mais sans construction sous le sol ou en surface, en termes d'émissions de CO2, ça n'atteint pas ce que émet une crémation. C'est inférieur à cela. Les débuts des funérailles naturelles. Donc en fait, depuis plusieurs années, il y a des nouvelles fournitures funéraires qui ont été inventées. Il y a aussi de nouveaux modes de sépulture qui ont été créés dans certains pays occidentaux. Mais il y a bien une origine de tout ça. Mais avant toute chose, je souhaite définir un petit peu ce que sont les funérailles naturelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition consensuelle sur ces pratiques-là. Mais je l'entends ici, aujourd'hui, comme un choix de funérailles affirmé, comme respectueuse de l'environnement, mais aussi destinée à maintenir un lien avec la nature sous la forme d'un retour à celle-ci sans artifice ni artefact. Et il faut savoir que les toutes premières pratiques pouvant être attachées aux funérailles naturelles ont débuté dans le monde avec le natural burial. L'enterrement naturel consiste à inhumer une personne, ou en tout cas ses cendres, de façon à ce que cela n'empêche pas, ou tout du moins ne ralentisse pas, sa décomposition, ce qui permettra ensuite de recycler naturellement son corps, c'est-à-dire le réintégrer dans un cycle bio-géochimique. Les sites d'enterrement naturel peuvent être divisés en deux grandes sous-parties. D'une part, les sites cinéraires naturels. Donc là, ça ne concerne que l'inhumation d'urnes contenant les cendres, urnes biodégradables qui sont généralement plantées au pied de l'arbre. Et d'autre part, vous avez les cimetières naturels, qui là sont davantage mixtes. Ils concernent l'inhumation des défunts ou des cendres. Si pour le premier cimetière naturel créé en 1993 au Royaume-Uni, ce sont d'abord des avantages socio-économiques qui furent mis en avant, on souhaita ensuite rapidement normaliser cette pratique selon une éthique là purement écologique. C'est ce qu'il s'est passé notamment 6 ans plus tard au Japon, avec le développement des premiers sites cinéraires naturels qui étaient alors créés pour pallier l'endommagement par les forêts industrielles de l'environnement. Intérêt nouveau pour les cimetières naturels, les sites d'enterrement naturel en France. Aujourd'hui, on comptabilise en France 3 sites d'enterrement naturel, mais également depuis 2019, une zone d'enterrement naturel en cimetière traditionnel à Ivry-sur-Seine. Le premier cimetière naturel communal, donc qui appartient à la commune, est né en 2014 près de Niort. Ce lieu de mémoire et de recueillement a été pensé à la fois par la municipalité, mais aussi par les habitants, pour réduire au maximum l'empreinte écologique, mais aussi relier le plus possible le visiteur à la nature. Si ce cimetière fut le premier à être communal, il faut savoir qu'il y avait 2 sites cinéraires cette fois, naturels mais privés, qui avaient été créés en 1998 et en 2004. Là, leur particularité réside dans le fait qu'ils sont gérés et qu'ils appartiennent non pas à la commune, mais à des particuliers. Si la loi interdit les cimetières privés depuis 2008, n'étant pas rétroactive, ils peuvent donc continuer d'exister, mais ils resteront uniques, absolument uniques, sur le territoire. S'affirmer contre les traditions. La part des funérailles naturelles dans le domaine funéraire reste en fait pour l'heure très minoritaire. S'il n'y a pas encore de données précises à ce sujet, le faible développement des sites d'enterrement naturel et de l'offre de fournitures funéraires alternatives, ça donne une certaine idée quand même de l'ampleur du phénomène. Différentes initiatives, qu'elles soient sociales, économiques ou écologiques, peuvent quand même être entreprises par les citoyens. Ne serait-ce que par le refus des soins de conservation, moins de fournitures, plus de matériaux biodégradables ou encore privilégier un monument funéraire végétalisé. De tels choix font alors par contre rupture avec la tradition, mais aussi avec les normes qui sont dictées à la fois par les entreprises de pompes funèbres, mais aussi par les municipalités. L'enterrement naturel, qui prend en compte l'ensemble pour moi du concept des funérailles naturelles, demande à ceux qui le souhaitent s'y rattacher de s'écarter complètement des coutumes établies et de s'insérer dans une voie encore si nouvelle dans le domaine funéraire. Les funérailles deviennent peu à peu un nouveau mode d'action de transition dans le contexte contemporain d'un développement durable. Changer son mode de mort. Lors des entretiens que j'ai réalisés sur les modes de sépulture alternatifs pour mon master, il est arrivé que ce soit les enquêtés eux-mêmes, en fait, qui évoquent la question de l'impact environnemental des funérailles traditionnelles et de l'intérêt que peuvent apporter les cimetières naturels. Charlotte nous dit « Il y a un moment où il va falloir que tout le monde réfléchisse écologie et environnement, et bien y compris aussi les industries de la mort. Mais aujourd'hui, je pense que les gens ne sont pas conscients de l'impact écologique des cimetières des cimetières tels qu'ils sont. Je pense que le plus facile, c'est les cimetières naturels, où finalement tu ne changes pas grand-chose dans le principe, mais tu enlèves tout le superflu. Et puis, tu en fais des lieux qui sont sûrement plus agréables, dans lesquels on peut se promener, aller pique-niquer. Les cimetières naturels, contrairement à leurs confrères traditionnels qui, eux, sont de plus en plus délaissés par les citoyens, apparaissent comme des lieux d'échange, de partage, de repos, des lieux en fait de vie, tout simplement. Ils peuvent également apporter un territoire végétalisé au sein de l'espace urbain, développant alors la biodiversité, réduisant la pollution et atténuant les effets du réchauffement climatique. Les funérailles naturelles semblent également permettre d'accorder son mode de mort à un mode de vie qui, lui, se veut transitif. L'enterrement naturel apparaît comme une pratique qui accroît le lien entre le style de vie et le style de mort. Jade nous dit en parlant des soins de conservation, « Enfin, moi, je sais que j'essaye au maximum de faire attention à ce que je mange, à ne pas me bourrer de produits chimiques en mangeant des trucs industriels. Donc, c'est pas pour une fois que tu es... Enfin, tu vois, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un est mort que... En fait, on sent l'envie pour Jade d'être en accord avec ses idéologies, au-delà même de sa vie quotidienne. La mort n'arrête pas pour elle les actions que l'on peut réaliser sur Terre, mais en fait, plus particulièrement, on voit à quel point les funérailles naturelles, et plus précisément les cimetières naturels, semblent être aux yeux des individus une solution complète aux nombreuses conséquences, qu'elles soient sociales, économiques ou écologiques, que provoquent actuellement les funérailles traditionnelles. Les citoyens, la municipalité et les pompes funèbres, un trinôme essentiel. Les transformations à l'initiative des habitants, contraintes par la législation. Si chacun est libre de choisir ses dernières volontés, depuis notamment la loi de 1887 sur la liberté des funérailles, le champ des pratiques funéraires reste extrêmement contraint par la législation. Chacune des étapes, plus petites soient-elles, est détaillé dans le Code général des collectivités territoriales. Le cimetière, par exemple, est entièrement géré par la commune. Les citoyens ne peuvent pas inhumer ni n'importe où, ni n'importe comment, ni n'importe quand, leurs défunts. L'environnement du cimetière est également contraint par le cahier des charges du dit cimetière qui décide de ce qui est faisable ou non. Mais en fait, les citoyens ils gardent quand même une grande marge de manœuvre. On peut s'éloigner des normes tout en restant dans la légalité. Si le cercueil est obligatoire, rien n'oblige dans la loi de construire un caveau. C'est la nuance dont en fait se sont saisis les habitants de la ville de Niort à l'initiative de la création du premier cimetière naturel de France. Ils étaient désireux d'avoir davantage de fleurissement et de verdure en ces lieux. Ces nouveaux souhaits furent entendus par la municipalité qui établissait au même moment, de son côté, une réflexion sur la gestion et le devenir des cimetières. Il existe d'autres cas, comme celui-ci. Reprenons tout d'abord celui des deux sites cinéraires privés dont je viens de vous parler, qui ont été créés par deux particuliers avant que la loi ne l'interdise. S'il est impossible aujourd'hui de les agrandir ou d'en créer de nouveaux, il est toujours possible d'y être inhumé, selon bien sûr la place disponible et sous l'accord du préfet. Un autre cas est extrêmement intéressant. Au printemps 2019, la commune d'Arbas a sanctuarisé un bois pour créer le premier site cinéraire communal de France. Ce projet est né, là encore, de l'initiative d'une citoyenne, conseillère et formatrice en développement durable, qui fut acceptée par le conseil municipal. Sauf qu'en fait, la Fédération française de crémation s'est très vite emparée du sujet et en a fait part au Conseil national des opérations funéraires. Le CNOF est une instance consultative qui est placée auprès du ministère de l'Intérieur et qui a alors saisi la préfecture de Haute-Garonne pour lui demander de suspendre le projet afin d'en examiner toutes les modalités. Le projet, qui devait être inauguré en novembre 2019, est toujours suspendu pour le moment, mais j'ai cru voir ces derniers jours qu'il y avait eu quelques modifications, donc ça reste à surveiller de près. Dernière partie, le rôle des pompes funèbres. Si, comme nous l'avons vu, la loi contraint particulièrement le champ des pratiques funéraires, le service externe des pompes funèbres reste entre les mains, en fait, des entrepreneurs funéraires. Bien que devant être habilités par la préfecture, eux seuls peuvent proposer le transport de corps, l'organisation des obsèques, les soins de conservation ou encore les fournitures funéraires. S'ils ont des obligations, bien sûr, légales à respecter, ils peuvent choisir dans ce cadre absolument tout ce qu'ils souhaitent proposer aux familles. Lors de mes différents stages et enquêtes participantes en pompe funèbre, j'ai pu remarquer très tôt et à de nombreuses reprises en fait, l'influence qu'ils pouvaient avoir sur le choix des familles. Les professionnels du secteur funéraire sont très fortement rattachés aux valeurs traditionnelles. Pour eux, les soins de conservation en fait, sont vraiment indispensables à faire. Ils garantissent une dernière bonne image que la famille peut se faire du défunt si l'on veut se recueillir auprès de lui. Il y a également un autre exemple, c'est le capiton. Pour eux, il est tout à fait inenvisageable de placer un défunt dans un cercueil sans capiton. Ça serait absolument irrespectueux alors que la loi ne l'oblige en rien. Par ailleurs, lorsque j'ai échangé avec un fournisseur de cercueils au salon funéraire de Paris l'an dernier, il m'a expliqué que les pompes funèbres ne voulaient pas proposer de fournitures funéraires écologiques. Ça ne les intéresse pas. Donc on pourrait penser que c'est une question d'argent, mais en fait, plus profondément que ça, c'est qu'ils ne veulent pas sortir des normes qui se sont cristallisées à partir des années 70 en France. En décidant telles quelles des normes à respecter, je pense qu'on peut fortement les rattacher à ce que Becker appelait des entrepreneurs de morale dans le champ des pratiques funéraires. Un nouveau courant se développe cependant chez les professionnels de funéraires, celui des coopératives. Ces agences de pompes funèbres garantissent d'une part une gestion tout à fait désintéressée des funérailles, mais elles sont essentiellement centrées aussi sur le service et non plus sur les fournitures. Elles contribuent également au développement régional en favorisant une économie locale et des achats responsables. C'est principalement dans ces agences que l'on trouve le plus d'offres d'alternatives aux funérailles traditionnelles. Il en existe 3 en France, une 4e, je crois, vient d'ouvrir ses portes très récemment, et 3 autres sont en projet. Pour conclure, parce que l'écologie est devenue une nouvelle entrée de penser la mort et que les rites funéraires ne correspondent plus au mode de vie de plus en plus de citoyens, se sont développées les funérailles naturelles. Des citoyens, avec l'aide de nouvelles entreprises de pompes funèbres et des pouvoirs publics, développent différentes alternatives, plus écologiques, plus économiques, mais aussi plus sociales. Il y a des transformations sociales majeures, notamment par la création de nouveaux rites funéraires qui se détachent alors de la tradition, et le développement de nouveaux territoires dédiés à la mort, mais aussi au partage et à l'échange. Les cimetières naturels, communaux ou privés, permettent à des centaines, voire à des milliers de citoyens, une nouvelle façon d'être mort, mais aussi de consommer ce lieu. Mais si la mort touche tout le monde, les rites funéraires ont des enjeux symboliques très forts, qui agissent à la fois sur le statut réservé aux défunts, mais aussi à celui de ses proches et plus généralement à la société tout entière. C'est également un événement unique qui se veut définitif, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que la loi contraint autant nos pratiques. Sans l'accompagnement de ces mouvements citoyens par les pouvoirs publics, la transition funéraire ne pourra pas évoluer. C'est également tout le système socio-économique des pompes funèbres qu'il faut revoir. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de données à analyser. D'après que selon les prévisions de l'INSEE, il y aura en 2060 60 000 décès annuels de plus qu'aujourd'hui. En bref, les funérailles naturelles amènent véritablement à questionner notre rapport au corps, à la mort, mais aussi à l'environnement. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis tout ouïe si vous avez des questions.
Merci à toi, Manon, pour cette présentation très claire, vraiment de l'ordinaire. je pense que tout le monde a appris plein de choses sur cette thématique, clairement. Donc, je commence par Muriel qui a une question à te poser.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors moi, juste pour dire d'où je parle, je suis doctorante en écologie, je travaille sur les plantes en ville. Voilà, donc quand tu dis qu'avoir des cimetières naturels, c'est tout à fait positif pour pouvoir verdir ces espaces. Et aussi, moi je pense aussi par exemple à ce que nous a présenté Mathilde ce matin sur les pesticides et dans les milieux urbains. On sait que les cimetières sont les derniers endroits en ville où, en fait, qui échappent à la loi Labbé et donc qui peuvent encore faire l'objet de traitements par les pesticides. Et donc on a des cimetières en France qui sont très minéraux et très peu végétalisés, ce qui est très différent de ce qu'on peut rencontrer par exemple au Royaume-Uni. J'ai trouvé ta présentation très intéressante. En plus, je suis née à Ivry-sur-Seine, alors je suis contente de savoir que je pourrais me faire enterrer dans un cimetière naturel, si je veux. Mais du coup, à part raconter ma vie, j'étais aussi intéressée quand tu disais que tu as dit à un moment que les premiers développements de cimetières cinéraires au Royaume-Uni ont été pensés dans des buts socio-économiques. Et du coup, est-ce que tu pourrais juste expliquer un tout petit peu ce que tu entendais par là? Parce qu'a priori, comme ça, moi, mettre des gens dans des forêts, je ne vois pas en quoi c'est intéressant socio-économiquement, enfin, économiquement parlant, en tout cas, je ne vois pas.
Voilà. C'est une très bonne remarque. C'est drôle comme le monde est petit quand même, des fois. En fait, c'est que ce qui t'expliquait, les tombes, donc les tombes qu'on pourrait rattacher à nos cimetières traditionnels, déjà, c'est un prix qui est très, très conséquent. Enfin, la marbrerie, c'est vraiment normalement l'une des premières dépenses quand il y a des funérailles si le caveau n'a pas été construit au préalable. Mais surtout, ce qu'ils expliquaient dans le texte de référence que j'ai lu, c'est que ça posait énormément de problèmes et de contraintes au niveau de l'entretien du monument funéraire, parce que souvent, c'est sur la durée. Il faut que la famille puisse s'en occuper, qu'elle soit aussi proche géographiquement du lieu pour s'y rendre régulièrement, pour s'assurer que le monument ne tombe pas en ruine, qu'il ne mette pas en péril aussi les visiteurs qui se promènent dans ces lieux. Donc, c'est ce que j'ai retenu surtout de ces avantages socio-économiques, en fait, la végétalisation de ce cimetière, à la rigueur, il pouvait être entretenu par peut-être des paysagers, des jardiniers. Mais en tout cas, ça ne demandait pas aux familles de venir régulièrement et d'avoir tout cet entretien à la fois financier, mais aussi physique que pouvaient imposer des monuments funéraires minéraux ou en tout cas traditionnels.
D'accord. Et si j'ai le temps pour une deuxième petite question, est-ce que tu nous disais que les praticiens, enfin les professionnels de la mort, des pompes funèbres, ils avaient a priori beaucoup de blocages sur leur technique, leur tradition en quelque sorte. Est-ce que toi, tu interroges un peu ces blocages, quelles peuvent être leur origine et éventuellement comment dépasser ça, si on reste un peu sur le thème de la transition, comment essayer d'accompagner ces changements de pratique auprès des professionnels?
Tout à fait, alors c'est un très très bon point. J'en ai justement parlé avec ma directrice de thèse. On souhaite soulever ces points-là dans ma thèse. Ça prend une part importante parce qu'on voit à quel point, comme je vous disais, les funérailles alternatives sont vraiment minoritaires et elles n'arrivent à se développer qu'à travers les coopératives. Donc ça reste encore très, très léger sur le territoire. Mais j'ai fait la formation des métiers du funéraire il y a un an et déjà tout le discours commence à travers ces formations. Donc ça a été presque institutionnalisé en fait. Et généralement, en tout cas, les professionnels du funéraire sont des professionnels assez âgés. Donc je pense qu'eux aussi, ils ont vécu peut-être personnellement tous des rites funéraires qui étaient ancrés dans cette tradition qui a commencé dans les années 70 en France. Je pense qu'il y a aussi tout cet aspect générationnel qui est intéressant qui est intéressant à voir. Il y a beaucoup de choses à soulever. Par exemple, on voit que le cercueil en carton ne prend pas du tout en France et qu'il est vraiment rejeté par les professionnels du funéraire. Donc ça, c'est dans les prochaines semaines, c'est quelque chose que j'aimerais soulever, notamment par entretien, pour voir d'où ça vient.
D'accord, super. Peut-être aussi le côté religieux, finalement, de ces personnes-là aussi, je me posais comme question. Mathilde, tu as une question aussi.
Oui, je vais rebondir sur les pesticides. Je me demandais si tu interrogeais l'entretien des cimetières. Parce que même si la loi Labbé ne rend pas obligatoire l'interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières, il y a des communes au label sans pesticides qui ont décidé de ne pas les utiliser dans les cimetières. Et dans mon petit épluchage de la presse locale, ça fait débat parfois auprès des habitants aux notions de la propreté environnementale, en fait. Ça oppose deux visions assez fortes de ce que doit être la nature et l'environnement.
Tout à fait. Alors, Muriel et vous, vous m'apprenez quelque chose parce que, en fait, moi, d'après mes lectures, je pensais que vraiment les pesticides étaient interdits totalement dans les cimetières. Mais apparemment, bon, voilà, vous m'apportez une nuance qui est très pertinente pour mes recherches. J'aimerais justement prendre vraiment le temps de faire aussi des entretiens comparatifs, mais aussi des observations comparatives entre cimetières naturels et cimetières traditionnels, de voir pour voir comment ils sont gérés en amont par la municipalité, par les agents qui s'en occupent, mais aussi par les usagers, ça c'est autre chose. Mais ce que j'avais lu, et j'avais fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est que généralement les visiteurs sont vraiment... parfois ça va vraiment très très loin et ils sont très mécontents de voir qu'il y a des herbes folles dans les allées, qu'il y a des mauvaises herbes. Enfin, pour eux, c'est totalement irrespectueux envers leurs défunts et parfois ça va vraiment très très loin. Donc il y a aussi toute une approche presque pédagogique qui doit être amenée. Après, dans plus en plus de cimetières, on va laisser des allées en pelouse, on va mettre du sable, on va faire... une transition étape par étape pour laisser plus de place à la végétalisation et peut-être, après je suis pas une spécialiste des pesticides, mais peut-être faciliter aussi la non-utilisation des pesticides en ces lieux.
Très bien, merci. Ella, tu as une question aussi?
Bonjour, en fait c'est Imane, je vais intervenir, en fait c'est plus pour rebondir. Puisque bon, dans ton travail, tu es allé voir d'autres contextes. Comment ces rituels se font dans d'autres contextes. Alors j'aimerais bien t'inviter à aller voir un peu plus loin, en Afrique, dans les pays arabes. En fait, selon la tradition, dans ma culture, là d'où je viens, ben, il n'y a aucun traitement, on ne traite pas les corps. On nettoie à l'eau, on les enveloppe dans un tissu blanc en coton et on les met directement à terre. Donc l'impact écologique de ce mode, c'est à 100% bio. Il n'y a aucun traitement, aucun matériau. Tout ce qu'on va utiliser, c'est une pierre tombale en marbre. Donc je t'invite à aller voir d'autres cultures, au-delà de la culture occidentale, pour enrichir un peu plus ton travail. Parce que plus naturel que ça, je pense pas qu'il y a.
Tout à fait, c'est très pertinent, parce qu'en anthropologie, il faut de toute façon, c'est une approche qui est comparative, donc on se doit d'aller voir dans d'autres espaces. Voilà. Merci.
Exactement, je t'en prie. Bon courage.
Ben alors pour finir, moi j'avais une petite question à te poser. Comment t'es venu ce sujet? Et ensuite, pour ta thèse, quels sont vraiment tes terrains? Est-ce que tu vas plus te porter sur New York qui fait le premier cimetière naturel ou est-ce que tu vas aller voir un petit peu plus ailleurs? Dis-nous tout.
Déjà, merci beaucoup de m'avoir accordé cette communication parce que j'avais peur de pas du tout rentrer dans le sujet et dans vos recherches. Mais très rapidement, à 3 ans, ma grande sœur m'a emmenée au musée du Louvre et je me suis retrouvée confrontée à la momie qui est magnifique, qui est exposée au Louvre. Et à partir de là, en fait, il s'est passé quelque chose d'hyper bizarre. J'ai pas compris pourquoi on faisait ça à un corps humain. Et mon grand-père maternel était quelqu'un de très érudit, de passionné d'Égypte. Et en fait, aussi loin que je me souvienne, il m'a offert à chaque Noël et chaque anniversaire beaucoup de livres sur l'Égypte antique, sur les procédés de momification, etc. Donc je voulais être archéologue et puis bref, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et j'ai découvert vers 8 ans le métier d'anthropologue. Et je me suis dit, moi je veux être anthropologue et je veux comprendre les rites funéraires. Donc j'ai commencé par une licence de socio à Poitiers. Et en fait, je me suis dit, avant de commencer, parce que j'avais déjà envie de faire un doctorat, avant de commencer à faire autant d'années d'études, va voir en France déjà ce qui se passe et va sur le terrain, va te confronter aux pompes funèbres, à la mort, à un corps mort, et voir si ça t'intéresse. Donc très tôt, j'y suis allée et en fait, je me suis passionnée pour ce sujet-là. Donc j'ai commencé à travailler vraiment sur le secteur funéraire en France. Et au cours de mes études, mes recherches, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'alternatives qui étaient en train de se créer, notamment Capsula Mundi, qui est une capsule en fait en matière biodégradable dans laquelle on va placer le défunt en position fœtale, qu'on va inhumer en terre et en fait un arbre va pousser au-dessus. Et en fait, donc ça c'était à la fin de la licence 3, je crois. Et je me suis dit, ma thèse, je voulais la faire sur ces modes-là, parce que je trouvais que ça remettait totalement en question plein de choses. Donc j'ai fait un stage au service funéraire de la ville de Paris avec qui je devais faire une cif sur les modes de sépulture alternatives, parce qu'en fait il y a la crémation par l'eau qui est en train de se développer en Amérique du Nord, il y a l'humusation qui a été validée dans l'État de Washington qui en fait fait devenir le corps en compost. Donc voilà, plein de choses. Donc là aujourd'hui la cif s'est pas fait à Paris parce qu'ils ont perdu un marché, ils sont en redressement économique, enfin bref, donc voilà, ça s'est pas fait. Donc je suis sans financement, donc c'est un peu long. J'avance sur la partie théorique et là, sur le terrain, en fait, on se pose la question avec ma directrice. Je ne sais pas si je reste près de l'université de Tours et j'analyse mes entretiens que j'ai fait avec des gens près de Tours, etc. Mais le but aussi, c'est d'aller sur des terrains, faire de l'observation à Niort, à Ivry, dans les sites cinéraires naturels en Bretagne et puis aussi en cimetière traditionnel. Donc, je ne sais pas encore sur où je vais m'attacher géographiquement.
D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation.